France Inter. Karine Bécard, Ali Badou. Le 7-9.
Lundi 15 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la répression s'intensifie en Birmanie contre les manifestants pro-démocratie. Hier, l'armée a tiré sur les manifestants qui sont de nouveau dans la rue ce matin. Les autres titres, Agnès.
Les écoles restent ouvertes à Dunkerque, mais avec un protocole sanitaire renforcé face aux variants anglais. Aider les familles et les agriculteurs, c'est l'idée du chèque alimentaire, idéal sur le papier mais pas facile à mettre en œuvre. On manque de bras dans les boulangeries, près de 9000 postes à pourvoir. Trouver des fonds pour la recherche à l'occasion de la journée internationale du cancer de l'enfant. Et puis notre escapade du 7-9 pour découvrir la montagne comme vous ne l'avez jamais vue à 7h, 7h30 et 8h.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Karine Bécard.
C'est une femme qui a été touchée et qui veut s'expliquer. Victime collatérale des crimes sexuels de son père, ils ont été révélés le week-end dernier. Après une semaine de réflexion, Audrey Pulvar, nouvelle adjointe à la mairie de Paris et désormais candidate aux élections régionales en Île-de-France, nous livrera sa vérité. Rendez-vous tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Elle est spécialiste de la pauvreté et des inégalités. Vos questions dès à présent au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert ou sur l'application France Inter.
France Inter. La junte militaire qui a pris le pouvoir en Birmanie il y a tout juste 15 jours a décidé hier d'accentuer la répression contre les manifestants pro-démocratie. Après les canons à eau, les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc, les soldats ont tiré sur la foule hier à Rangoon où des chars ont été déployés. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Que sait-on ce matin de ce qui se passe en Birmanie?
Écoutez, la situation reste confuse sur place. L'internet a été coupé la nuit dernière. Avant d'être rétabli ce matin, des blindés ont pris position devant la banque centrale où une partie des employés a rejoint le mouvement de désobéissance civile. Les manifestants ont annoncé une 10e journée de manifestation et certains sont déjà redescendus dans les rues de Rangoon. La tension reste vive. Comme vous l'avez dit, l'armée hier a tiré sur les protestataires dans plusieurs villes du pays, faisant plusieurs blessés. Depuis le putsch du 1er février, quelques 400 personnes ont été arrêtées et 7 activistes, leaders de la contestation, sont traqués par la police qui menace ceux qui les hébergent.
Alors France Inter a réussi à joindre cette nuit la coordinatrice de l'ONG Info Birmanie, Sophie Brondel, son témoignage.
On parle de 5 journalistes arrêtés dans le nord, dans la ville de Mitina, dans l'État Kachin, parce qu'ils couvraient des manifestations. Et là, le nombre en cours d'arrestations en fin de journée ou là cette nuit, évidemment on ne sait pas, mais on était à 400 arrestations et on parlait ces derniers jours d'arrestations supplémentaires la nuit. C'est-à-dire qu'il faut voir les Birmans, alors notamment à Rangoon, mais certains ne dormaient plus la nuit. Il y avait des veillées dans les quartiers en cas d'arrestation, une très grande peur. Aucun appel de la communauté internationale n'a d'impact. Il va falloir décider d'actions susceptibles d'avoir de l'impact. Mais les condamnations, les appels de la communauté internationale n'ont pas l'air d'être entendus. En même temps, c'est un peu sans surprise, malheureusement.
Un témoignage recueilli par Bleuette Dupin. Alors Christian, que peut faire la communauté internationale?
Le problème, c'est que la communauté internationale n'est pas sur la même longueur d'onde. La Chine, par exemple, n'a pas critiqué le coup d'État. Les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions contre plusieurs généraux. Et puis, il y a l'arme économique. Des grands groupes internationaux sont présents dans le pays qui regorge d'or, de cuivre et de pétrole. On pense à Total notamment. Un retrait de Birmanie de ces grandes sociétés serait un coup dur pour les membres de la junte qui tirent directement profit de ces contrats. Mais les militaires birmans pourraient aussi se rapprocher encore un peu plus de Pékin.
Merci Christian Chesneau. L'engagement de la France au Sahel en question aujourd'hui et demain lors d'un sommet entre les présidents du G5, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad et la France. Paris voudrait voir ses alliés prendre le relais militaire et politique dans la lutte contre les djihadistes. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h05 sur France Inter. La suite du journal, Agnès Soubiran, et de nouvelles mesures sanitaires dans les écoles de Dunkerque.
Pour tenter de freiner la propagation du variant anglais dont le taux d'incidence est passé en une semaine de 384 à 515 cas pour 100 000 habitants. Les autorités n'ont pas voulu fermer les établissements scolaires avant les vacances qui débutent vendredi, mais les horaires de rentrée et de sortie sont étalés pour éviter les attroupements devant les écoles maternelles et primaires. Farida Noir, les parents ont dû s'organiser.
Ces horaires décalés perturbent l'organisation de Jessica, maman de 2 enfants en CP et en maternelle. Ce matin, rien ne change, elle les dépose à 8h30, mais en fin d'après-midi, ça se complique.
Pour mes 2 enfants, ils vont quitter à 16h20 tous les deux en fait. au lieu de 16h30. Du coup, c'est mon conjoint qui va aller chercher. Donc, il arrive juste à l'heure. Donc, le temps de se garer, de récupérer les deux enfants en même temps, aux mêmes heures, ça va être très compliqué. J'espère qu'ils seront assez compréhensifs et on essaiera de s'arranger malgré les mesures sanitaires qu'on comprend tous, hein, mais ça engendre pas mal de problématiques. Je me doute qu'il faut des mesures, hein, mais je pense pas que c'est les enfants qui seront les plus problématiques dans la situation.
Séverine déposera sa fille Noëlla à 8h50 au lieu de 8h30 tout à l'heure. Ce variant anglais inquiète cette maman active, mais pas au point de vouloir la fermeture des écoles, alors elle se plie aux mesures.
Nous parents, c'est pas toujours facile de s'adapter, mais je pense que c'est facile pour personne en fait, et il faut faire en sorte que tout ça aille pour le mieux en fait. Donc c'est sûr que c'est inquiétant. Maintenant, c'est les vacances dans une semaine, donc on espère que grâce à ça, bah, ça se calmera un petit peu et qu'on en entendra un peu moins parler au retour de vacances.
Les collèges et les lycées fonctionneront en mode mixte, c'est-à-dire en présentiel et en distanciel à partir de ce matin. À Dunkerque, Yves Lehors, Farida Noir, France Inter.
Et puis, Éducation nationale a décidé d'alléger le protocole de fermeture de classe en ce qui concerne le variant anglais. Un seul cas positif n'entraînera pas automatiquement la fermeture de la classe. Une décision sera prise après étude de la situation. Un peu plus de 16 500 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures et 167 décès à l'hôpital, des chiffres en léger recul. Côté vaccination, un peu moins de 3 millions de personnes vaccinées en France. Au même moment, Londres annonçait 15 millions de vaccinés. La crise sanitaire et son corollaire, la crise économique, ont appauvri les familles les plus fragiles pour leur permettre de mieux se nourrir et d'aider les agriculteurs les plus vertueux. Le gouvernement planche sur un chèque alimentaire qui pourrait voir le jour dès le mois de septembre. C'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Mais au sein de la majorité présidentielle, Simon Le Baron, les débats sont tendus.
C'est le président lui-même qui s'est engagé en décembre devant les membres de la Convention climat.
Je suis d'accord sur le chèque alimentaire, donc il faut qu'on le fasse. Vous avez raison, donc on va le faire.
Depuis, la Macronie phosphore et c'est peu dire que les positions sont tranchées. Le ministère de l'Agriculture, La République en marche et les parlementaires de la majorité proposent un chèque de 30 à 50 euros par mois pour les jeunes et les familles les plus précaires à dépenser, y compris en grande surface. Le député Mounir Majoubi est en pointe sur ce projet.
Le but, c'est que ça concerne des produits frais, de qualité, pas que bio. La majeure partie de l'argent qui sera dépensé à travers ces chèques, elle ira directement auprès des agriculteurs vertueux, ceux qui ont fait des efforts. Donc c'est gagnant, 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 gagnant pour les familles qui ont des produits de qualité, gagnant pour les agriculteurs et gagnant pour la planète.
Sauf que tout cela est assez compliqué à mettre en place et cher, jusqu'à 4 milliards d'euros, impensable pour le grand argentier Bercy, qui pousse pour un dispositif beaucoup plus modeste, autour de 200 millions. C'est bien gentil de rêver, mais c'est une usine à gaz. Le système français crève de toutes ses aides sociales et il y a de plus en plus de pauvres, s'emporte un conseiller de Bruno Le Maire. Un pognon de dingue, pourrait dire Emmanuel Macron. Alors l'enjeu politique va-t-il prendre le pas sur les considérations budgétaires ? Le président a en tout cas l'occasion d'envoyer là un double message vert et social.
Pourquoi cet engagement d'Emmanuel Macron s'annonce très difficile à tenir, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et s'il y a un secteur qui se porte bien malgré les crises, c'est celui de la boulangerie-pâtisserie. Les enseignes ont même du mal à recruter. Près de 9000 postes seraient vacants. Yann Galic.
Notre pays compte aujourd'hui 33 000 boulangeries artisanales qui emploient près de 130 000 salariés, mais ces commerces en pleine croissance manquent de main-d'œuvre qualifiée. Dominique Enrac préside la Confédération de la boulangerie-pâtisserie.
On a besoin de personnel qualifié en boulanger, en pâtissier, en personnel de vente, donc vendeur-vendeuse. On a quand même 9 000 postes à pourvoir. Le risque dans nos métiers, c'est que si des gens n'arrivaient pas à trouver du personnel des salariés, ils risqueraient d'acheter des produits tout faits. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait vraiment, on forme beaucoup de jeunes, beaucoup de gens pour fabriquer le fait maison et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça marche super bien.
Le métier de boulanger continue à susciter des vocations. L'an passé, la profession a formé 24 000 jeunes en apprentissage.
L'alternance, c'est la voie royale pour avoir du travail. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant, des jeunes faisaient une formation en 2 ans pour un CAP. Aujourd'hui, des jeunes font CAP, après ils font brevet professionnel, ils montent en compétences. Donc souvent, au lieu de 2 ans, c'est 4 ans de formation. Tous ces jeunes, quelquefois, peuvent aussi partir en industriel, en grande surface, etc. Donc on ne les récupère pas tous.
Avec la crise sanitaire qui semble avoir accéléré l'exode urbain, il y aura beaucoup de boulangeries à reprendre dans les villages ou les petites villes, explique Dominique Enrac. À l'issue de leur formation, les futurs boulangers, dit-il, sont quasiment assurés de trouver du travail.
Génération identitaire menacée de dissolution appelle à manifester samedi prochain à Paris et lance une pétition. Le ministre de l'Intérieur a engagé une procédure pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence.
Il est 7h10, 500 enfants meurent chaque année d'un cancer.
Et à l'occasion aujourd'hui de la journée internationale du cancer de l'enfant, une trentaine de familles ont décidé de publier un livre qui sort aujourd'hui et dont les fonds récoltés serviront à la recherche. Julie Pietri.
Pour une recherche de qualité sur les cancers des enfants et sur leurs causes possibles, comme les pesticides, entre autres, il faudrait près de 15 millions d'euros par an, bien plus donc qu'actuellement. C'est le postulat de ce livre, dans lequel 34 familles racontent leur épreuve, la maladie, la guérison ou la mort de leur enfant. Marie-Kerlo Héguin a perdu son fils et sa fille.
Faut qu'on trouve des causes. C'est nous, quelque part, avec mon mari, on a la chance, entre guillemets, de se dire on sait la cause. On sait que c'est génétique, ça vient l'un de nous deux, on le sait. Voilà, mais on n'était pas au courant quand on a fait des enfants. Mais je me dis, pour les autres parents qui sont dans le combat ou qui ont, comme nous, ont perdu leur enfant, ne pas savoir, c'est inhumain. Donc 15 millions, c'est la base.
Les associations ont un rôle fondamental aujourd'hui dans le financement de la recherche. Mais la Covid leur complique la tâche. C'est aussi pour cela que Marie Thibault a voulu participer à ce livre. Elle est membre d'un collectif à Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, où la fréquence des cancers chez les enfants inquiète depuis des années les familles.
Les associations ont beaucoup moins la possibilité de mettre en place des actions pour récolter des fonds. La mobilisation, qui est moindre, fait qu'il y a encore moins de possibilités pour nos chercheurs de pouvoir développer des protocoles de recherche.
Le livre Regard est disponible à partir d'aujourd'hui sur Internet.
Une grande bouffée d'air frais pour terminer ce journal, Ali. Direction Flaine en Haute-Savoie, où tout n'est que calme et blancheur. Les vacanciers, forcément moins nombreux, profitent de la montagne autrement. Luge, ski de rando, raquettes, Sandy Dauphin a tout essayé. Reportage.
Au pied des pistes, on entend le son d'un torrent, d'habitude recouvert par le bruit et l'agitation des télésièges. Un calme qui frappe les vacanciers, forcément plus rares en ce moment.
On vit autrement, quoi. Il n'y a pas de bruit, on voit les traces d'animaux, on apprécie autrement.
Isabelle et son mari sont des habitués de Flaine. Cette année, pour la première fois, ils ont troqué leur ski alpin contre des skis de randonnée pour suivre Diane Moreau de Lisereux, monitrice indépendante.
Les gens profitent justement de cette situation économique et sociale pour justement faire autre chose. Ils essayent la peau de phoque, la raquette. On peut découvrir la montagne sous une autre couleur, plus calme et sauvage.
Et en l'absence ou presque des humains sur le domaine skiable, la faune profite, comme le lièvre, le blanchot.
J'ai vu un blanchot, des blanchots, j'en ai vu trois dans ma carrière. J'ai vu des chevreuils que je n'avais jamais vus en 25 ans. Et je savais qu'ils étaient là parce que je voyais les traces, mais ils se rapprochent. Les espèces se sentent plus en sécurité, beaucoup moins de bruit, donc forcément la nature reprend son chemin et son droit, on va dire. Alors on est en train de s'équiper, on met les DVA.
DVA, détecteur de victimes d'avalanche.
Voilà.
La montagne, un peu plus sauvage en ce moment, donc forcément plus dangereuse.
On est prêt pour la glisse.
Évidemment qu'on est prêt. Suite de notre escapade en montagne dans les journaux de 7h30 et 8h.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes, reportage en Russie auprès de ceux qui se tiennent à l'écart du bras de fer Poutine-Navalny.